Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivante Église. Aujourd'hui, je vous invite du côté du sanctuaire de Lourdes, Lourdes qui est situé dans notre belle région d'Occitanie, ancienne région de Midi-Pyrénées, un lieu typique associé aux apparitions de la Vierge Marie, un lieu connu dans le monde entier, un lieu de grâce, de guérison des cœurs, des âmes et des corps. C'est aussi un lieu de réconciliation, lieu d'amitié, lieu de rencontre. C'est aussi ce lieu qui accueille cette jeunesse du monde entier avec ce village des jeunes dont l'histoire commence en 1930, un village des jeunes situé sur la colline qui surplombe le sanctuaire, un petit coin de paradis. Des invités pour ce Vivante Église aujourd'hui, autour de cette table, dont Maxence Bertrand, prêtre à la communauté Saint-Martin.
Bonjour.
Frère, père, Don abbé, Maxence. Don Maxence, vous êtes responsable de cette pastorale des jeunes pour Lourdes.
Oui, hein, tout à fait.
Et vous êtes entouré, donc vous m'avez donc amené pour cette émission spéciale. Nathan, bonjour Nathan.
Bonjour.
Alors bon, vous êtes laïque, marié depuis 10 ans, père de 4 enfants, une belle fratrie et surtout vous êtes ici pour témoigner un peu de cette, est-ce qu'on peut parler de belles lettres de mission puisque vous missionnez ici à Lourdes et en particulier dans ce village des jeunes où vous habitez avec votre épouse et vos 4 enfants.
Oui, exactement.
Et vous nous direz dans quelques instants un peu comment s'est passé un peu pour vous ce cheminement et cet appel. Sœur Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes carmélite apostolique au Carmel de Bagnères de Bigorre.
C'est ça. Hein,
entrée au Carmel en 2009, vous faites partie de ce service jeune et de cette pastorale.
Voilà, c'est ça.
Et on vous retrouvera dans quelques minutes. Nathan, vous habitez ce village des jeunes depuis un an et demi. Comment s'est passé ? Est-ce qu'on peut parler d'appel tout d'abord ? Et comment s'est passé cet appel ?
Alors oui, on peut parler d'appel. Ça a été un appel de la part du sanctuaire qui nous a proposé, avec mon épouse, donc cette mission en famille pour, premièrement, rejoindre l'équipe de la pastorale des jeunes. Voilà, pour que ce soit une équipe un peu renouvelée, remobilisée, avec un peu tous les états de vie, voilà, avec Don Maxence prêtre, Sœur Marie religieuse, et puis des laïcs, voilà, mariés. Que ce soit aussi donc une équipe jeune, que ce soit une équipe aussi internationale. Moi, je suis marié avec une femme qui est argentine, donc de fait, on parle aussi un peu espagnol à la maison. Voilà, donc ça a été cette proposition, et la proposition, en plus de rejoindre l'équipe de la pastorale des jeunes, ça a été de vivre au village. En famille.
Alors, comment on répond à un tel appel, Nathan, en famille, hein? Je rappelle que vous avez aussi une fratrie de 4 enfants.
Oui, ouais. Généralement on dit oui pour répondre à l'appel.
Alors vous êtes préparé pour dire oui
non,
à cet appel?
Non, on n'est jamais préparé.
Voilà, est-ce qu'on est préparé?
Non, parce qu'on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé, mais on fait confiance.
Alors comment vous avez été, je me tourne vers Don Maxence, comment avez-vous un peu sélectionné ces différents profils qui, voilà, vous vous connaissez bien.
Je n'ai pas
fraternité entre vous.
Non, je crois très simplement que c'est le Seigneur qui conduit les choses et les événements, que Nathan et Candela se sont... Il y a eu des opportunités, des circonstances, on a prié, ils ont prié, nous aussi. Sœur Marie, ça a été aussi une belle arrivée de la Providence.
C'est-à-dire ?
Ça s'est présenté comme ça. Et de fait, il y avait quelqu'un qu'il fallait remplacer, un chaplain qu'il fallait remplacer. Il n'avait pas immédiatement. Puis il y a une opportunité qui s'est ouverte. Et donc, non, c'est vraiment le Seigneur qui a conduit ça bien, je crois.
Quels étaient les besoins de l'équipe de la...
Moi, je désirais beaucoup dans cette équipe
complémentarité
d'état de vie, d'abord. Ouais. Je l'avais expérimenté en paroisse dans mon ministère précédent. Et puis, témoignage de vie différent. Il fallait qu'on soit un peu plus nombreux pour l'accueil des groupes. On sortait du Covid à ce moment-là, de ce moment où il y avait le sanctuaire avait roulé un peu au ralenti pendant quelques années. Il y avait un beau renouveau de la pastorale des jeunes avec les travaux du village. Donc beaucoup de choses qui commençaient à naître. Il fallait renaître en tout cas. Il fallait qu'il y ait des cœurs dévoués pour cette mission.
Des cœurs de Yvoubé. Alors, je crois que vous avez eu une expérience, Nathan, avant ce village des jeunes. 10 ans d'expérience du côté de Marseille. Est-ce qu'on peut relire aussi pour que l'auditeur découvre un peu le cheminement aussi de chacun? Il y a une expérience.
Oui, oui, il y a eu 10 ans à Marseille avant Lourdes, dans une maison qui s'appelait la maison Bernadette.
Voilà. C'est 10 ans d'expérience, 10 ans de mission.
Oui, oui, 10 ans de mission aussi. C'était une association qui était une présence chrétienne dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, et qui aussi, il y avait plusieurs choses de proposer aux enfants et familles de la cité, notamment pour la prévention de la délinquance. Donc il y avait à la fois cette présence chrétienne, avec des personnes qui étaient comme moi, hein, et j'étais pas tout seul, hein, on était engagés sur plusieurs années, on nous appelait les permanents, ceux qui duraient un peu plus, et puis on avait les jeunes qui venaient se mettre au service de la charité, qu'on appelait les services charité, qui venaient se mettre au service de la maison pendant 1 an, et au service du quartier des habitants.
Alors entre Marseille et le village des jeunes, c'est un grand saut.
Ah oui, oui.
C'est un défi pour vous.
C'est un et grand
votre...
écart.
Oui, c'est un défi avec votre épouse.
Oui, oui,
cette mission.
C'est toujours un défi. De toute façon, quand on change de lieu de vie, c'est toujours un défi. Je pense que
vous ne choisissez pas le confort. Hein, vous prenez des risques dans votre état de vie.
Oui, on choisit une vie simple.
C'est-à-dire.
Ça, oui.
C'est-à-dire.
C'est sûr que le confort, on l'avait plutôt à Marseille. Là, on est plutôt en train d'expérimenter les déserts médicaux. Il n'y a pas de pédiatre à Lourdes pour les enfants. mais on a gagné aussi en confort en termes de vie. On vivait à Marseille, on est passé d'une grosse ville à un petit village où tout le monde se connaît, où les enfants sont passés de 5 mètres de balcon à 15 hectares de jardin, à une école où ils étaient 1500 et où c'était insupportable pour eux de manger à la cantine. Là, ils sont 250 et ils se connaissent tous. Donc non, vis-à-vis des enfants, c'est très confortable pour eux, donc on préfère. Après, on a choisi cette vie simple qui est de se mettre effectivement au service de l'Église et de donner quelques années de notre vie à l'Église.
Et puis, ces nombreuses sollicitations, parce que vivant au village, vous êtes alors hors saison un peu plus tranquille. Mais en saison, vous êtes hyper sollicité le soir, vous vivez aussi, vous avez une vie de famille, mais vous vivez aussi très au contact de ces différents groupes, etc.
Et c'est ce qui est chouette, finalement.
Toi, tu les connais presque plus que... Enfin, tu les retrouves là-haut, au village, et on les voit ensuite au sanctuaire en bas. Enfin, ça fait du lien,
Oui, et puis on a le temps, on a le temps aussi, je crois que ce qui change, c'est qu'on a le temps de vivre cette mission-là vraiment en famille. Quand les enfants rentrent de l'école le soir, on a le temps de passer du temps avec les enfants dans le village.
Ouais.
Et donc, un tour de vélo est prétexte aussi à aller à la rencontre du groupe qui vient en pèlerinage sur telle ou telle semaine. Des scouts qui viennent avec des personnes handicapées et qui logent au village, bien évidemment, ils vont descendre au sanctuaire, mais pas forcément toute la journée parce que c'est trop long, c'est trop loin. Et donc, du coup, ils vont y rester quand même, ils vont rester une partie de leur journée au village. Donc, les enfants passent une partie de leur journée aussi avec eux. Et puis on s'invite régulièrement. En fait, mon épouse, comme elle a le contact aussi, les échanges de mails et de téléphones avec les groupes qui passent au village, c'est vrai qu'elle est contente de ne pas se limiter à cet échange de mails ou de coups de téléphone. Donc le soir, une fois que les enfants sont couchés, on est assez disponible pour effectivement aller témoigner ou faire un tour du village.
Candela travaille à la réception du village. C'est comme ça que tu signales ça, oui.
Donc, cette présence permanente dans Maxence, d'un couple, est importante. Est-ce que vous avez des retours?
Elle est très heureuse, cette présence.
Donc, signe visible aussi de la famille, une famille
tout à fait.
Rayonne.
À la fois alors, au village, où c'est un lieu familial, au village, il y avait eu des prêtres qui avaient vécu en communauté, des religieuses qui avaient vécu en communauté. Je crois que ça correspondait moins à ce lieu-là. Une vie de famille avec des enfants, avec des problématiques familiales qui ressemblent assez bien aux problématiques de groupes de jeunes qu'on emmène en pèlerinage. Donc ça va bien. Après, il y a aussi le témoignage. Moi, j'y vais pas mal au village aussi, Sœur Marie aussi. C'est aussi, après, c'est un peu deux lieux différents, très connectés, hein, le village et le sanctuaire. Mais le village, c'est plus les moments de coucher, de repas, des moments plus intimes où une famille a une belle place, je pense. Et le sanctuaire, c'est plutôt le cœur de leur pèlerinage. Ils viennent pour aller à la grotte.
Ouais. Alors, en ce qui vous concerne, Sœur Marie, vous avez rejoint, tout comme Nathan, depuis 1 an et demi, ce service des jeunes. Oui. Vous vous organisez comment?
Je travaille toute l'année ici au sanctuaire. Alors, juste 3 jours par semaine hors saison et puis 4 jours en saison pleine. En fait, il y a eu un petit défi au début quand on m'a proposé. Donc, il se trouve que ma mission en paroisse a pris fin. Voilà, parce qu'au bout de 3 ans, le curé peut décider que c'est la fin. Voilà. Et puis, on m'a proposé de venir travailler au sanctuaire. Alors, moi, je me suis dit, c'est quand même loin de chez moi, parce que c'est à 20 km. Il faut quand même y accéder. Et puis, je tiens vraiment à rester carmélite. Voilà. Notre père fondateur, il nous disait, voilà, souvenez-vous que vous êtes carmélite avant d'être apostolique. Voilà. Et donc le petit défi, c'était de pouvoir être le plus possible avec ma communauté et ne pas trop déranger la vie communautaire par mes absences. Donc en fait, le matin, je fais l'oraison et les offices du matin avec ma communauté. Et puis, je quitte ma communauté au moment du petit déjeuner et je reviens pour les offices du soir. Donc je suis absente juste, pour l'office de midi et la récréation de midi. La récréation, c'est le temps fraternel, en fait, qui est très important pour nous. Donc là, c'est vrai que je ne suis pas présente, mais bon, c'était une des conditions pour pouvoir venir, quoi. Parce que c'est difficile de venir qu'une demi-journée, en fait. Comme c'est loin, c'est important, ouais.
Le mois d'avril, c'est maintenant, voilà. Donc vous êtes tous, vous avez démarré cette saison. Vous y préparez comment, dont Maxence, Nathan et Sœur Marie? Parce qu'il faut aussi tenir dans la durée pendant près de 7 mois. C'est une population importante que vous accueillez.
C'est très changeant, en fait. Hein, oui. C'est très changeant. On a un très gros mois, qui est le mois d'avril, qui est le plus gros mois, pour la pastorale des jeunes. C'est le mois où on accueille le plus de jeunes de l'année. C'est le mois d'avril. On a énormément.
Alors pourquoi le mois d'avril?
Parce que c'est les vacances de Pâques et c'est la plupart des pèlerinages diocésains qui emmènent leurs jeunes à ce moment-là. Donc c'est le mois où il y a le plus de jeunes et en même temps c'est le mois qui se ressemble le plus, je pense, en termes de public. C'est beaucoup de pèlerinages diocésains. Après, juillet-août, évidemment, c'est très dense, mais c'est beaucoup plus divers. On a pas mal de camps de jeunes, on a pas mal de scouts, de jeunes en service, de jeunes bénévoles en service, etc. Donc on a beaucoup de monde, mais avec des publics plus diversifiés, on va dire. Mai et juin, c'est une grosse période, mais c'est une période très centrée sur les récollections de première communion, profession de foi, ouais, confirmation, ouais, etc. Les sorties de fin d'année, public plus scolaire aussi. Donc en fait, ce sont quand même des mois qui ne se ressemblent pas. C'est des semaines qui ne se ressemblent pas, qui se suivent, mais on dirait que le mois d'avril se ressemble un peu. Et ensuite, voilà, mai, juin, c'est un peu différent. Septembre, on a encore beaucoup d'écoles. Puis après, il y a le rosaire, le pèlerinage de la Toussaint, etc. Donc c'est le pèlerinage diocésain qui reviennent. Donc c'est une période assez dense. Mais très changeante aussi, donc très vivante. Et puis en hors-saison, en fait, on n'a pas un hors-saison si large que ça. Parce qu'à Noël, il y a quelques groupes. Au mois de février, on a eu un très gros mois de février, là, avec près de 1600, 1700 jeunes au village des jeunes, avec des camps ski, des camps luge, des pèlerinages, des visites, etc. Enfin, donc on a eu beaucoup de monde. En fait, on a le mois de janvier, le mois de mars, et une partie de novembre-décembre qui est un peu plus creux. Et là, la plus grosse partie du travail, c'est le travail de préparation, d'organisation, à la fois des lieux, des espaces pour les renouveler. On en reparlera peut-être, la tente des jeunes, etc. Oui, oui. Et puis tout ce qui est organisation de réservation, programmation de pèlerinage.
Comment vous organisez-vous au quotidien, alors, dans ces périodes de temps fort, voilà.
Alors, il y a quand même un responsable du village, hein, qui fait aussi partie de l'équipe de la pastorale des jeunes. Voilà. Nous ne sommes pas responsables du village. Nous, on y vit, on y est une présence. Mais, et après, donc, à l'année, en tout cas, il y a Joël et donc Candela qui sont au village pour justement assurer toutes les réservations, en fait. Avoir ce contact là où le village avait pu être fermé sur les temps de hors saison, j'allais dire, il y a quelques années. Bah, maintenant, il est ouvert et donc du coup, il s'agit d'y répondre, quoi, de passer du temps à répondre aux mails, à répondre au téléphone, pour arranger les groupes.
Alors, combien de capacités d'accueil, de lits, c'est énorme.
Alors ça aussi, ça change de semaine en semaine parce que du coup, comme des travaux ont commencé maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse phase de travaux qui a commencé pour un peu rénover et entretenir le village. Je dirais un peu moins, à peu près 350 couchages dans du dur et à peu près 3500 pour ceux qui souhaiteraient camper. Mais il y a tellement d'espace que...
Alors quels sont ces gros travaux et ce grand chantier jusqu'en 2030, je crois?
Alors oui, je ne sais pas très bien, j'espère un peu avant malgré tout. Les gros chantiers, c'est un chantier de rénovation parce que le village était assez vétuste, en tout cas dans tout ce qui était sanitaire, etc. Après, on a voulu faire un plan un peu plus ambitieux et un peu plus large que simplement une rénovation des dortoirs et des sanitaires. Et donc, en fait, le village s'était construit très progressivement en fonction des besoins, mais de manière un peu, parfois un peu anarchique ou un peu disparate, on va dire. Donc là, l'idée, c'était de recentrer et de permettre au groupe de se rencontrer davantage. Donc un des premiers chantiers qui a lieu en ce moment et qui sera terminé assez prochainement, c'est on appelle ça la place du village. C'est vraiment un lieu où on a accès, même visuellement et pratiquement, à la chapelle, au petit stade, au petit terrain de sport, à l'accueil, un lieu de convivialité, un lieu de rassemblement. Voilà, c'est un lieu qui veut permettre au groupe de se retrouver, de se rencontrer aussi les uns les autres. Et puis des dortoirs ont déjà commencé, etc. Et ça prendra pas mal de temps. Voilà, ce sera un gros chantier.
Un beau chantier en perspective, oui, pour accueillir chantier, au maximum. Ouais. Alors, quelles sont un peu ces propositions qui sont, au fond, du 1er janvier au 31 décembre ?
C'est une des premières propositions qu'on offre. C'est-à-dire, c'est le parcours, le circuit, où on va faire marcher les jeunes, mais les pèlerins, en fait, hein, généralement, sur les lieux où Bernadette a vécu, Moulin de Boli, le cachot, bien sûr. Après, on peut déployer davantage l'hospice, etc. Nous, on fait principalement le Moulin de Boli, le cachot et puis le sanctuaire ensuite. Alors, c'est ce parcours-là. Après, nous, on a d'autres propositions, on en reparlera, de catéchèse, etc. Mais de fait, cette proposition, quasiment tous les groupes la vivent. Alors, depuis 2 ans, une année ou deux, ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi, je pense. On a travaillé, de fait, aussi divers parcours. C'est beaucoup Nathan qui a beaucoup travaillé sur ce sujet pour élargir un peu ces propositions et aménager ces propositions sur les pas de Bernadette. Peut-être tu peux en dire un mot.
Allez-y.
Ouais, sur les parcours. Ouais. Bon, en fait, il s'est trouvé que moi, les premières semaines où je suis arrivé, on m'a demandé d'accompagner un groupe sur les pas de Bernadette et c'était en fait juste insupportable parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait des pèlerins autour qui étaient en italien, en espagnol, ça criait, ça. Le groupe que j'avais en face de moi, en fait, n'arrivait pas à m'écouter. En fait, donc c'était. Et puis, au-delà de faire les pas de Bernadette et de découvrir un peu ces lieux de vie, on essaye quand même de faire rentrer les jeunes dans leur pèlerinage, de les faire prier, de qu'ils confient un peu aussi ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. Donc, ça a été une expérience assez désastreuse pour moi, en me disant, mais c'est pas du tout comme ça que je souhaite vivre les pas de Bernadette. Et donc, il m'est venu l'idée de dire, de toute façon, on va toujours revenir sur l'histoire des apparitions, toujours revenir sur la vie de Bernadette, toujours revenir sur ce message de Lourdes. Pourquoi on ne le ferait pas un peu d'une autre manière, ou en tout cas en allant dans d'autres lieux? Et donc, j'ai imaginé une petite dizaine de parcours autres Alors, on passe pas forcément ni par le moulin ni par le cachot, mais on peut passer par le presbytère, par le cimetière, par la paroisse, par l'hospice, par Bartrès, par différents lieux de Lourdes aussi, où on peut tout à fait revenir sur telle ou telle apparition et voir ce qui s'est passé, et revenir sur la vie de Bernadette et revenir sur cette amitié et cette proximité qu'il y a eu entre Bernadette et la dame, la belle dame. Voilà. Donc revenir un peu sur ça et rajouter un peu quelques jeux, rajouter quelques textes, quelques prières, en s'appuyant beaucoup sur les écrits de Sainte Bernadette, quoi.
Ouais, c'est un très beau, c'est très apprécié des pèlerinages, ça. Ils sont accessibles, tous ces parcours, sur le site de la Pastorale des Jeunes.
On peut retrouver. Voilà. Ouais.
Donc il y en a trois principaux, ou trois essentiels. Ça reste les pas de Bernadette, les signes de Lourdes, et puis la visite du sanctuaire, c'est un peu ce qui est demandé. Et après, en effet, il y a beaucoup d'autres manières. Bernadette et l'Eucharistie, Bernadette et les prêtres, Bernadette et sa mission. Voilà, donc beaucoup de choses. Bernadette et la précarité, les différents lieux où la famille a déménagé, etc., avec cette espèce d'insécurité que ça représentait. Donc beaucoup de lieux comme ça, et des choses qui sont adaptables pour les groupes. Et puis la dernière chose que je dirais sur les parcours, c'est que c'est pas clé en main, c'est-à-dire que c'est aussi des choses que les groupes peuvent s'approprier en fonction de l'âge, de leur... Donc c'est des textes, de fait, comme disait Nathan, des textes, des chants, etc. Mais c'est à modeler chacun aussi et c'est adaptable, on va dire.
Comment intervenez-vous, Sœur Marie, dans toutes ces différentes activités proposées? Quelle est votre mission spécifique,
Sœur Marie? Ma mission spécifique, c'est plutôt l'accueil des enfants et des familles à la petite maison Bernadette, mais également l'accueil des différents groupes, qu'on attend à déjà un ou deux groupes en main. il faut pouvoir accueillir les autres, voilà. La plupart du temps, c'est quand même les groupes les plus jeunes, parce que Nathan et Don Maxence s'occupent plutôt des collégiens, lycéens, étudiants, et puis moi, je prendrais plutôt les enfants de paroisse, par exemple, sortis de caté.
Professeur des écoles, hein, ça vous va bien.
Ouais. Non, mais disons qu'on s'est répartis comme ça, parce que c'est mais après, s'il y a des collégiens qui viennent et que Don Maxence et Nathan sont déjà pris ailleurs, alors dans ces cas-là, je les accueillerai également. Et voilà. Et alors, comment je reçois ces groupes? C'est vrai que chaque groupe est unique et j'essaye au début un peu de sentir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils savent, si c'est la première fois ou pas qu'ils viennent à Lourdes. Parce que dans ces cas-là, on adapte le message différemment. Mon but, c'est de familiariser les jeunes et les enfants avec la personne de Bernadette, que ce soit pas juste une jeune fille qui fait à peine un sourire sur une photo, voilà, mais de la rendre vivante. Bernadette, elle avait 14 ans au moment des apparitions, elle avait 10 ans quand elle a quitté le moulin de Bolly, et donc il y a des choses qui touchent en fait les enfants, parce que elle avait à peu près leur âge quand tout ça s'est passé. Et tout ça s'est passé, c'est quelque chose qui est mystérieux, qui la dépasse, et donc ça peut aussi rejoindre les jeunes dans leur vie, parce que aussi dans leur vie, ils ont dans leur relation à Dieu, en fait, il y a des choses qui peuvent les dépasser, se dire, voilà, Bernadette aussi, elle est un peu passée par là.
La vision, c'est de permettre aux jeunes de rentrer dans l'histoire de Bernadette, et donc de la rendre proche, familière, contemporaine, presque. Je dirais que c'est un peu dans les pas de Bernadette, c'est ça, le fait de passer dans les lieux où elle a vécu, c'est de la rendre proche, de la rendre contemporaine. Enfin...
Ouais. Alors ça tombe bien qu'on parle de Bernadette. On va se retrouver dans quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis j'en profite aussi, puisque Vivante Église est consacrée à ce service et cette pastorale des jeunes ici dans ce beau sanctuaire à Lourdes, où vous avez l'un et l'autre, tous, Sœur Marie, Nathan, dont Maxence, répondu à l'appel du Seigneur, vous avez dit oui pour la mission, et vous-même, dont Maxence Bertrand, de la communauté Saint-Martin, où vous êtes auteur aussi de ce livre qui circule, voilà, qui peut être aussi un bon support pour accompagner cette rencontre avec Bernadette. Ce livre s'intitule Bernadette, celle que personne n'attendait, qui est paru aux éditions de Première Partie. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Avec Marie, tout ce que vous demanderez dans la prière,
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église, en plateau, Sœur Marie, Nathan, dont Maxence Bertrand, responsable de la pastorale des jeunes ici dans ce sanctuaire de Lourdes, et puis auteur de ce livre consacré à celle que personne n'attendait, Bernadette, paru aux éditions Première Partie. Alors, il se vit de belles choses, il se vit des miracles, des rencontres, des accompagnements sur les pas de Bernadette, et des temps forts aussi. C'est un peu nouveau depuis l'an dernier, je crois. Je me tourne vers vous, non, Maxence Bertrand, l'attente des jeunes ici, derrière le Gave, dans la prairie.
L'attente des jeunes, donc c'était l'ancien temps de l'adoration, pour ceux qui connaissaient le sanctuaire autrefois. L'adoration a maintenant une chapelle dans le sanctuaire. Et donc, ce lieu-là avait été ensuite prêté à des associations, etc. Et en effet, depuis l'an dernier, beaucoup à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse et du passage de nombreux jeunes par Lourdes vers Lisbonne, on a en effet, on utilise ce lieu, en tout cas on l'habite pour la pastorale des jeunes, ce qui est absolument idéal en réalité, parce que c'est un lieu qui est un peu à l'écart de la grotte, en même temps très proche, en plein milieu de la prairie, où les jeunes peuvent se jouer, se détendre, taper un ballon, prier, enfin voilà, c'est un lieu qui est assez polyvalent. Et donc ce lieu, c'est l'espace visible de la pastorale des jeunes. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement qu'il y a trois utilités à ce lieu. D'abord, c'est le lieu principal, sinon exclusif, de toutes nos catéchèses et de toutes nos veillées. Donc dès qu'il y a un temps où nous, on propose une animation, c'est là, en fait. C'est à l'attente des jeunes. Dès cette semaine, on va commencer à l'utiliser pour les premières catéchèses, etc. Premiers récits des apparitions, voilà. Quasiment toutes les activités qui s'y passent, pour les veillées du jeudi soir au mois d'avril, l'été, etc., elles se passent aussi là. C'est un autre objectif, c'est que ce soit aussi un lieu pour les groupes de détente, de repos. C'est-à-dire qu'il y a un coin de la tente qui est aménagé où on peut se poser, on peut jouer à des jeux de société, on peut bouquiner un peu, etc., on peut s'y poser. Et puis ça a un autre avantage, peut-être aussi considérable en tout cas pour les groupes, c'est que c'est un lieu de détente physique aussi. C'est-à-dire que beaucoup de groupes ont besoin, entre les chemins de croix, les pas de Bernadette, les messes internationales, les offices, etc., de taper un ballon, de se détendre physiquement. Et donc là, nous, on met à leur disposition une caisse de jeux physiques, de ballons, de raquettes, etc., pour pouvoir jouer, rassurez-vous, pas juste en face de la grotte, mais au fond de la prairie, où c'est bien disposé pour ça. Donc voilà, c'est un lieu vraiment de vie, de rassemblement qui est assez visible, qui est très, très heureux. Voilà.
Quels sont les retours, puisque vous avez expérimenté cette tente des jeunes l'an dernier?
Les retours sont unanimes, le lieu convient très bien.
Ouais.
C'est d'ailleurs très très beau, dans les veillées qu'on y fait, on peut très vite transformer ce lieu dans un grand climat de ferveur et d'intimité spirituelle. Je me souviens de ces veillées extraordinaires, on avait exposé le Saint-Sacrement. Toutes les bâches des tentes sont ouvertes et les prêtres confessent le soir dans la prairie. Et ça donne un accès au sacrement de la réconciliation qui est extraordinaire, bien plus fécond et bien plus accessible que dans des chapelles où les jeunes doivent sortir ou aller voir un prêtre dans l'obscurité d'une chapelle latérale. En fait, là, j'ai vu beaucoup de jeunes se confesser, beaucoup de premières confessions. Donc ça, c'était un très très beau fruit. Et en même temps, ce lieu peut devenir très festif en l'espace de... C'est très malléable à l'ambiance qu'on veut y créer.
Souriez, Nathan.
Oui, parce qu'on a vécu ça un peu pendant les JMJ.
Ah oui, vous avez reçu l'expérience des JMJ, l'accueil des jeunes du monde entier.
L'accueil, oui. En fait, ils n'étaient que de passage. Ouais, Bourdin, ouais.
Mais ils étaient de passage.
De fait, entre mi-juillet et mi-août, il y en a beaucoup qui ont fait quelques milliers, qui ont fait une halte avant ou après Lisbonne. Et c'est vrai que la tente était toujours ouverte du matin au soir. Alors elle servait d'abri quand il pleuvait, mais surtout ça a été un lieu de fête incroyable, quoi, parce qu'il y a eu des temps de louanges incroyables dedans et dans toutes les langues. On a pu accueillir un peu toutes les nationalités qui sont passées par Lourdes, donc ça a été des beaux moments.
Est-ce que vous proposez ce même lieu au village des jeunes?
Pas de la même manière, parce que d'abord le village des jeunes en entier est pour les jeunes, donc il y a des lieux, il y a des salles, des chapelles, etc. On pourrait dire que la chapelle du village des jeunes est un lieu assez important, mais un lieu polyvalent de cette manière-là, etc. Non, je pense d'ailleurs qu'on pourrait presque dire que la tente, c'est le pendant dans le sanctuaire du village des jeunes, disons, c'est l'espace jeune dans le sanctuaire. Je pense aussi que ce lieu, il répond un peu à notre mission spécifique de la pastorale des jeunes.
Vous parlez de la tente des jeunes.
La tente des jeunes. C'est-à-dire que ce qui est très, très particulier dans notre pastorale, dans la manière dont on la vit en tout cas, c'est que nous ne sommes pas en responsabilité des groupes. Vous voyez, dans une aumônerie, dans un diocèse, dans un pèlerinage, dans un camp, vous avez des accompagnateurs, des animateurs qui sont responsables de groupes. Et nous, ce n'est pas notre cas. C'est-à-dire que quand un pèlerinage arrive, on n'est pas en responsabilité. On est toujours sur le côté comme une force de proposition. On propose au groupe des catéchèses, des veillées. Ils sont tout à fait libres d'y participer ou pas, ils ont leur programme autonome. On est presque submergé, mais pas submergé tout à fait, on tient encore pour y répondre, donc on le fait avec grand cœur. Mais on est toujours sur le côté, vous voyez, c'est comme une proposition. Et ensuite, nous, dans notre manière, ce que disait un peu Sœur Marie tout à l'heure, c'est dans notre manière d'accompagner les groupes, il faut sentir quelle est l'ambiance propre, quel âge ils ont. Ils ont 12 ans ou ils en ont 18, c'est des jeunes qui sont dans une école hyper catho ou c'est des jeunes qui sont plutôt pas du tout familier avec la vie de l'église et qui sont en sortie classe verte et ils ont 2 heures dans le sanctuaire. Et du coup, notre discours, il s'adapte à ça.
Alors, il y a beaucoup de propositions. On n'aura peut-être pas le temps de donner toutes les propositions du service de la pastorale des jeunes ici à Lourdes. Alors, je ne sais qui va répondre sur, parmi aussi toutes les propositions, jeunes en mission. Vous avez quelques dates. Et ça, c'est une expérience sur une dizaine de jours. Nathan, vous êtes polis les uns et les autres, Sœur Marie, Nathan.
Oui, les jeunes en mission.
Ça correspond à quoi? Voilà, expliquez-nous.
Eh ben en fait, si vous voulez, il y a énormément de bénévoles qui viennent au sanctuaire, se mettre au service du sanctuaire et des pèlerins. L'idée, c'était de se dire attention, parce que les bénévoles locaux ou les bénévoles un peu classiques, c'est très bien, mais quand on a des jeunes, on peut peut-être leur proposer de vivre quelque chose de plus que le bénévolat. Et donc ça fait plusieurs années que ça existe, hein, ça s'est pas né avec nous. Et donc du coup là on a proposé, le format change, et je pense que c'est intéressant du coup qu'on l'adapte aussi à ce qu'on est aujourd'hui, et à notre équipe d'aujourd'hui. Donc là cette année ce sera une proposition, donc il y a 2 sessions de 10 jours chacune, donc le jeune s'inscrit sur l'une ou l'autre. Et puis il va venir se mettre au service à la fois du sanctuaire, voilà, dans tout ce qui est liturgie, les messes internationales, etc. Voilà. Et puis le bénévolat, l'accueil des pèlerins aux portes, aux arcades, aux gardes-grottes, aux fontaines, aux chapelles de lumière, etc. Ou même aux confessions, à la chapelle de la réconciliation. Donc vraiment, il y a une partie, se mettre au service du sanctuaire au niveau liturgique, et puis voilà, l'accueil des pèlerins. Une partie vraiment pastorale des jeunes. voilà, nous aider aussi à accueillir quelques groupes de jeunes une fois qu'ils sont formés, etc. Voilà, se mettre au service de la pastorale des jeunes. Et puis
c'est intéressant ça parce que ça permet, c'est-à-dire que nous aussi on les forme par exemple pour devenir, pour accompagner sur les pas de Bernadette. Donc en fait ça les fait rentrer aussi d'une manière assez forte dans le message de Lourdes.
Ouais, et puis ils peuvent nous animer des veillées, nous animer des temps de prière, voilà, des veillées
donc
que ce soit à la tente ou au
village. Ils sont
en temps
de formation.
Oui, c'est ça. Ils rejoignent quasiment notre équipe comme bénévoles de notre équipe, presque, un peu.
Alors, où dorment-ils? Des questions pratiques.
Alors, au village. Et puis, le dernier service, c'était ça, c'était qu'ils se mettent aussi au service du village. Donc, ils dorment au village, ils sont logés et nourris au village.
Donc, il y a une double mission, double service. Service au cœur du sanctuaire et service aussi, si besoin est, au village des jeunes. C'est ce qu'on peut entendre.
Oui.
Vous proposez deux dates, du 13 au 23 juillet 2024 et une deuxième session de jeunes en mission du 3 au 13 août 2024. Donc on est sur une dizaine de jours à peu près.
En fait, une semaine c'est trop court. On l'a expérimenté l'année dernière. Ils sont frustrés. Ils ont envie de vivre plus. Et deux semaines, c'est trop long pour des étudiants qui sont en vacances. Enfin, ils ont aussi d'autres choses à faire et on les comprend bien.
Quels sont un peu les retours suite à une telle expérience de service, de don, d'eux-mêmes et de découverte peut-être?
Je dirais que le retour qui me touche le plus, moi, en tout cas qui me satisfait le plus, c'est le sentiment, l'impression d'avoir découvert Lourdes de l'intérieur. De l'autre côté, c'est-à-dire des salariés, du côté des chapelains, du côté des religieuses, des consacrés, d'avoir eu à se mettre... Parce que souvent, quand ils viennent en pèlerinage, ils viennent dans leur diocèse ou dans leurs écoles et ils sont reçus au sanctuaire de Lourdes. Alors, ils s'occupent de malades, etc., peut-être, mais ils sont accueillis au sanctuaire de Lourdes. Là, ils sont dans la situation d'accueillir d'autres pèlerins. Et donc, en fait, par exemple, avec le service du bénévolat, ils sont très heureux de découvrir les différents services du sanctuaire, de voir comment... souvent, ça n'apparaît pas dans notre mission, nous, de pastorale, mais en fait, on travaille avec d'autres salariés qui sont responsables du bénévolat, responsables de tel accueil, du centre information, etc. Et donc, ils ont l'impression de s'approprier Lourdes d'une autre manière. Voilà.
Alors, c'est une belle manière aussi de grandir et de devenir adulte.
Oui, tout à fait.
À l'école de
Bernadette. C'est responsabilisant.
Tout à fait. Il y a aussi une participation à la grotte Massabielle, le rendez-vous de 15h30 du chapelet.
Voilà, on accueille les jouets.
Ouais,
les enfants et les jeunes qui...
C'est vous qui êtes un peu en mission.
Oui. Donc j'accueille les jeunes, c'est quelque chose qui était proposé depuis longtemps, de permettre aux jeunes et aux enfants de participer à l'animation du chapelet. Donc c'est pas eux qui animent le chapelet, mais ils y participent.
Principalement une journée par semaine, le mercredi, c'est le chapelet des jeunes en saison. Et des enfants, alors après, sur exception, parfois, ça peut s'élargir un peu, mais c'est principalement le mercredi.
Ouais. Donc, c'est vous qui
commence demain,
voilà.
Par exemple.
C'est demain.
J'ai un groupe qui est inscrit demain.
Donc, vous les accueillez comment? Vous les préparez comment?
Alors, je les accueille à 15h. Certains groupes, même, je les accueille un peu avant, mais la plupart du temps, c'est à 15h. On se donne rendez-vous sous les arcades pour être un peu loin de la grotte, pour pouvoir parler sans déranger, en fait, le chapelet précédent. Et puis là, comme avec tous les groupes, j'essaie de sentir, voilà, est-ce que ce sont des enfants qui ont l'habitude du chapelet ou pas l'habitude.
Et la réponse,
parce que dans ces cas-là, en fait, ça dépend. Il y a des enfants qui n'ont jamais prié le chapelet et qui sont très heureux de pouvoir faire cette première expérience. Et puis d'autres qui ont vraiment l'habitude de prier le chapelet. Et là, ça se sent parce qu'ils l'ont dans la poche et ils le sortent. Voilà. Et donc, selon les groupes, en fait, je vais les préparer juste à la récitation propre des Je vous salue Marie, enfin de la première partie, ou alors carrément plus entrer dans la méditation des mystères qui seront priés ce jour-là. Et ensuite, 10 minutes avant le chapelet, on va rencontrer le chapelain qui nous accueille. Et puis c'est plutôt la préparation physique de qui passe en premier, etc.
Parfois, vous avez rencontré aussi des groupes un peu plus jeunes, en particulier le matin, avec qui vous avez fabriqué un chapelet, certaines fois, dans l'espace de la petite maison Bernadette.
Voilà, il y a des enfants qui souhaitent aussi, en tout cas leurs accompagnateurs souhaitent aussi que les enfants fabriquent leur propre chapelet. Donc là, c'est ce qui est proposé à la petite maison Bernadette. Ça prend à peu près entre 20 et 45 minutes. Et les enfants sont très heureux après de pouvoir utiliser le chapelet qu'ils ont fait et de prier avec. Parce que le but n'est pas juste de le faire, mais c'est
de... Une chose aussi qui est très belle sur le chapelet des jeunes à la grotte, c'est la dimension intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, ça arrive parfois que leur pèlerinage plus largement assiste aussi à ce chapelet, prie à ce chapelet à la grotte. Et puis sinon, par exemple, c'est le cas, on a bien prochainement un groupe qui vient avec un groupe d'enfants et puis en même temps des personnes qui sont en EHPAD qui viennent ensemble Ils viennent accompagner. Et puis, il y a les enfants qui peuvent peut-être dire le chapelet. Alors, je ne sais plus si ce groupe va le faire, mais ils peuvent dire le chapelet. Ils savent par derrière qu'il y a tel EHPAD ou telle maison de retraite ou telle, etc., qui les regarde ce jour-là, qui prient en communion de prière avec eux. Enfin, donc, à Lourdes, il y a quand même beaucoup de petites choses comme ça où en fait, les enfants, à la fois, on a une pastorale propre, nous, pastorale des jeunes, mais en même temps, elle s'élargit toujours au monde du pèlerinage plus largement.
Voilà. Oui. C'est la prière d'intercession, parce que les enfants, en fait, en les préparant à dire et à méditer les mystères, je leur dis aussi qu'ils sont là, puisque c'est un chapelet qui est télévisé, ils sont là aussi pour porter la prière de toutes les personnes qui vont soit participer physiquement, parce qu'ils sont là devant la grotte, soit écouter à la radio ou regarder... que c'est ce soit que leur ouais. prière en fait porte la prière des autres.
Ouais, c'est une expérience de la communion des saints. Ouais. Je pense au sens strict.
Il y a plein de belles propositions. N'oublions pas, puisqu'on reste au sanctuaire, puisqu'on est avec la récitation de ce chapelet à la grotte Massabielle, au cœur de ce sanctuaire. Il y a aussi ce moment important pour ces jeunes que vous accueillez, ces groupes que vous accompagnez, la procession au flambeau.
Oui, la procession au flambeau.
Ça, c'est aussi un temps que vous préparez.
C'est un incontournable.
Ouais.
Alors, on va le préparer un peu plus cette année parce que c'est le thème de l'année, que l'on vient ici en procession.
Ouais.
Donc, on aura une catéchèse sur la dimension de la procession mariale et même eucharistique d'ailleurs, qui est souvent moins connue des jeunes, mais qui, je pense, est assez profitable. Il faut le vivre. C'est plus à vivre qu'à raconter une procession.
Quelles sont vos joies de la mission dans ce service auprès des jeunes, Nathan ?
On vit à Lourdes de belles rencontres. Des rencontres qui sont simples, qui sont vraies, qui sont... Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est une vraie belle joie. La deuxième, pour moi, c'est que Lourdes, tout le monde y est accueilli. Tout le monde. La Vierge Marie accueille tout le monde. Et c'est très, très beau. Parce qu'on n'est pas... parce qu'en fait, je ne vaux pas mieux qu'un autre. Et quand je me retrouve à la grotte et que je vois tous ces pèlerins défiler en passant devant la grotte, qui se mettent à genoux, qui prient, qui posent un cierge, qui prient le chapelet, qui assistent à la messe, qui chantent, qui sont en silence, etc. Les hospitaliers qui aident, etc. En fait, il y a de tout. Il y a de tout. Et moi, ça me rassure. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait s'attendre à se dire... au début, moi, j'avais un peu peur de ça. Je me dis, mais à Lourdes... ne viennent que les personnes croyantes, pratiquantes, qui ont tout bien fait, tout comme il faut, quoi. Et non, pas du tout. Non, à Lourdes, tout le monde y vient. Et même ceux qui sont en vacances dans le coin. Alors, on peut avoir... Moi, ce matin, j'avais un groupe d'enfants de cœur, voilà, d'enfants de cœur de Suisse, qui étaient là. Alors, c'est génial, qui étaient là avec leur curé et qui les a emmenés pour les remercier, j'imagine, de leur service... toute l'année, donc ils les emmènent à Lourdes. Et puis à la fois, on a des gens qui passent au village et qui souhaitent aider un peu les jeunes des cités à se reprendre un peu en main, et donc qui les emmènent faire un tour dans les Pyrénées, et le tour dans les Pyrénées passe par Lourdes. Et donc du coup, voilà, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir. Enfin, je retrouve un peu mes jeunes de cités quand ces jeunes-là viennent. Voilà, juste, voilà, mais il n'y a pas de case à Lourdes. Enfin, tout le monde vient et c'est très agréable. Enfin.
Moi, une de mes joies, c'est à la petite maison Bernadette. Donc, passent beaucoup de familles. Et dans ce que je remarque, c'est que les gens qui viennent à Lourdes, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens, hein, mais il y en a beaucoup qui viennent sans vraiment savoir pourquoi ils viennent. Et en fait, c'est la Vierge Marie qui les attire. Et du coup, ils trouvent plus qu'ils ne pensaient, quoi. Et moi, une de mes joies, c'est... parce qu'à la petite maison Bernadette, en fait, on accueille les jeunes et les enfants et les familles et leurs parents pour découvrir l'histoire de Sainte Bernadette et découvrir le message de Lourdes et aussi les initier à la prière. Alors, il y en a certains qui savent déjà prier, mais on peut toujours faire un petit pas en plus. Et il y en a d'autres qui découvrent complètement ce que c'est que la prière. Et en fait, voilà, ma joie, c'est de voir des gens qui ont le désir de prier. Et j'espère qu'après, ce désir restera et grandira quand ils rentreront chez eux. Voilà. Ça passe aussi par la confection des chapelets. Et puis, on a un oratoire, en fait, dans la petite maison Bernadette. Et j'essaye, dans la mesure du possible, à ce qu'à chaque fois qu'ils partent, on rassemble un peu toutes les familles qui sont là. Et on prie en français ou dans plusieurs langues. Alors, moi, je parle surtout français. Mais voilà, j'invite les gens à dire un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » dans leur langue maternelle.
Et les gens récitent le « Je vous salue Marie ».
Ouais. Et j'ai vu des familles, enfin une famille entière, c'était il y a quelques semaines, là pendant les vacances de février, qui découvrait complètement la foi, en tout cas les parents, avec 3-4 petits-enfants, et le papa et la maman à genoux avec leur chapelet qui venait de fabriquer, parce que bon, les parents aussi, et qui entraînaient les enfants, et les enfants qui regardaient avec des yeux pétillants leurs parents faire cette démarche de foi, quoi. Et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est une grande joie.
Moi, une de mes joies spirituelles, en tout cas comme prêtre, c'est de me sentir un peu comme dans les noces de Cana, les serviteurs entre les jarres et le marié. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai toujours le sentiment d'être sur le côté de la grâce et pas celui qui... Enfin, la grâce passe parfois par nous, mais surtout, on est spectateurs beaucoup à Lourdes de la grâce, de ce que la Vierge Marie fait dans les cœurs, etc. Et de voir le nombre de jeunes qui sont marqués par la grâce de Lourdes, presque malgré nous, devant nous.
Donc vous êtes parfois de simples témoins.
On est simples témoins parfois. Ouais. Et donc, un peu comme les serviteurs de la parabole, des noces de Cana, pardon. Je sais d'où vient leur joie. Eux-mêmes ne le savent pas toujours. Mais moi, je sais que ça vient de la source qui est là, de la grotte. Et puis, voilà, de se trouver là, entre la Vierge Marie, le Christ, les âmes. Et puis nous, on fait les allers-retours avec les seaux pour aller abreuver avec cette eau transformée en vin, avec cette eau de la grâce. Voilà. Donc je vous dirais ça.
Au fond, vous recevez au centuple dans ce service missionnaire.
Quand
on vous écoute les uns et les autres. Merci à vous, Sœur Marie, carmélite apostolique au Carmel de...
L'Enfant Jésus.
L'Enfant Jésus, au Carmel de Bigorre ou Sainte-Bernadette. On n'en a pas parlé, mais peut-être une prochaine fois. C'est arrêté. On n'en dit pas plus. Merci à vous, Nathan. Continuez cette belle mission avec votre épouse et vos 4 enfants auprès de ces jeunes dans ce village des jeunes à Lourdes. Et merci, bien évidemment, dont Maxence Bertrand, auteur aussi, on en profite, de ce petit livre accessible pour les plus grands comme les plus petits, Bernadette, celle que personne n'attendait. Merci, belle
merci
mission.
Beaucoup. Hein. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.